tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour à tous.
Et de Ben.
Salut à tous.
Au sommaire de l'actualité, on vous parlera de Moonlighter, on évoquera ensuite Stardew Valley, nous parlerons d'un mode qui a l'air de tuer sa race, on évoquera Shenmue, Spider-Man, un petit comparatif au sein d'une série très connue qui fait mal aux épisodes récents. On évoquera rapidement le cas Mafia 3. Un article est sorti cette semaine. Il est assez éclairant, on va dire, sur ce qui est arrivé à ce jeu. On enchaînera ensuite sur la grève chez Eugène System. Et enfin, on terminera par la mort de Steam Spy. Allez, c'est parti et on va commencer avec Moonlighter. Ben?
Oui, donc Moonlighter, on en avait parlé ici, c'est un petit Zelda-like avec en plus un esprit gestion de son commerce. Et on a eu la date de sortie, donc ça sera le 29 mai prochain. Il sort sur Xbox, PC et PS4. On n'a pas de date pour la version Switch, mais il bosse dessus.
Bon, j'ai déjà dit quand on a parlé de ce jeu, hein, je suis un fan de Racketeer, ça me rappelle Racketeer, donc forcément. Bon, moi de toute façon, tu me proposes tout ce que j'aime, c'est-à-dire un jeu de gestion de magasin plus un jeu d'aventure dans un donjon avec des phases de donjon vraiment bien, ben ça m'intéresse.
Ah mais c'est vraiment intéressant en fait que dans un monde tel que on va dire un Zelda-like quoi. Le capitaliste arrive quand même à s'inviter tout le temps, quoi.
Ouais, puis, je sais pas, il y a un aspect intéressant dans les trailers. Apparemment, le héros qu'on va jouer est un peu un frustré de la vie, c'est-à-dire qu'il a toujours rêvé d'être aventurier, en fait. Mais il fallait s'occuper du magasin de papa et maman quand il était petit. Et puis, l'aventure, c'est pas pour toi, mon fils. Tu verras, quand tu seras grand, tu auras oublié tout ça, etc. Et finalement, quand il est grand, bah écoute... Il a l'occasion de réaliser ses rêves et il le fait. Et moi, j'aime bien aussi le message derrière. Bon, allez, on va maintenant parler d'un truc qu'attendent pas mal Ben et Mordren. Enfin, surtout Ben. Mordren est victime de l'oppression de Ben, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. C'est le mode multijoueur de Stardew Valley. Et oui, le créateur du jeu a annoncé que ça y est, il serait bientôt prêt, aux environs du mois prochain, si tout va bien. Donc Ben, la pression est forte, la pression est dure, est-ce que Mordren va craquer?
Oh ben, il a déjà plus ou moins craqué parce qu'il a acheté le jeu, mais c'est ma vengeance parce qu'il m'a fait acheter Ark à l'époque, alors voilà.
C'est ça. Mais pourquoi tu l'attends ce mode sur Stardew Valley? Parce que je me dis, bon, Stardew, tu vas cultiver des trucs, etc., est-ce qu'il s'y prête vraiment?
Eh ben, je pense qu'il peut s'y prêter parce qu'il y a quand même une... Ce qui est intéressant dans ce jeu aussi, c'est la gestion de son temps. Les journées, je crois, durent entre 7 et 10 minutes en moyenne. Donc voilà, il faut faire des choix dans la journée. Et là, du coup, ben, en jouant à deux, il va y avoir des choix supplémentaires à faire pour avancer, etc.
Se coordonner.
Voilà, exactement. Je pense qu'il peut y avoir un truc intéressant. Pareil, il y a un passage où tu peux aller dans des donjons aussi pour récolter certaines choses, tuer des monstres et notamment récolter des minerais, etc. Et voilà, donc là, c'était un truc qui était fait aléatoirement. Et quand tu sortais du donjon, en fait, tu reprenais à chaque fois du début. Donc là, peut-être qu'il y a des journées où il faudra s'organiser pour y aller à deux ensemble, pour avancer plus loin. Enfin, je pense que voilà, ça peut être intéressant. Sans dire que ça va révolutionner le jeu, mais je pense que c'est pas un mode multi pour rien, quoi.
Et puis même, tu sais, je vois bien des soirées en couple sur Stardew Valley
aussi,
en split screen. Après, je sais pas sur un split screen d'ailleurs.
Je sais pas si on peut faire du coop local. Ouais, je suis pas sûr.
Sûr non plus.
Ouais, par contre, Ben, fais attention parce que Mordren après il va dire ouais, déjà que les gars ils mobilisent à jouer à Dark Souls. Si toi tu l'en plus le demandes de jouer à Stardew Valley, ça va faire beaucoup. Hein.
Ah putain, je m'en suis toujours pas remis, c'est du star. Le mec, tu lui dis deux fois, oui, Mordren, il faudrait que tu joues à Dark Souls. Ça y est, c'est du harcèlement chaque semaine. On lui fait
la pression. Non, mais là, l'avantage, c'est qu'il a déjà acheté le jeu il y a un moment. Alors maintenant, j'y suis pour rien. Moi, s'il veut y jouer...
Ouais, mais après, il va nous taxer de République bananière.
Non, parce que tu vois, nous, on lui a parlé deux fois, on l'a harcelé. Alors toi, qu'est-ce que ça va être, hein? Parce que c'est pas la première fois que tu lui en parles. Donc bon, en tout cas, on attend ça avec impatience. Et puis, c'est vrai que c'est un jeu, effectivement... De toute façon, dans tous les jeux, il y a du planning comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Voilà. Allez, On va maintenant parler d'un mode que j'attends avec impatience. C'est un mode que vous connaissez peut-être sous le nom Project Brazil, si vous suivez un peu l'actualité des modes de Fallout. C'est un mode de Fallout New Vegas qui avait été créé à l'époque de Fallout 3, mais qui avait ensuite basculé à la sortie de Fallout New Vegas sur le moteur de Fallout New Vegas, et qui avait d'ailleurs au passage repris le setting de Fallout New Vegas pour faire une préquelle, qui s'appelle donc désormais non plus Project Brazil, mais Fallout New California. Ça fait 9 ans qu'ils bossent dessus quand même, sur ce petit mode. Hein. Ils ont prévu 12 fins au jeu, dont 11 qui sont déjà implémentées. Et apparemment, c'est 12 vraies fins, hein. C'est pas genre un changement de couleur à la fin du jeu, si vous voyez ce que je veux dire. Clin d'œil, clin d'œil. 14 000 lignes de dialogue doublées. Alors, pour vous donner une idée, hein, Fallout 1, c'est 20 000 lignes de dialogue non doublées, c'est 45 000 lignes de dialogue pour Fallout 3, et c'est 65 000 lignes de dialogue pour New Vegas. Sachant qu'en dans le 3 et dans New Vegas, si je me souviens bien, tout n'était pas doublé. Hein.
Il y avait des trucs qui étaient pas doublés, en fait c'était juste des sous-titres, et voilà.
C'est aussi 42 acteurs pour une soixantaine de personnages consistants. Quand je parle de consistance, c'est-à-dire que je compte pas les PNJ random du Stunfest, n'est-ce pas? Voilà. Et surtout, c'est un jeu d'acteurs de qualité. Je vous mettrai un lien vers un extrait du jeu. Ma foi, c'est fort prometteur. Je rappelle au passage que c'est un mode qui avait bénéficié d'une première sortie en 2013, parce qu'ils avaient prévu de le découper en morceaux, quoi, si vous voulez. C'était prévu pour sortir en 3 parties. Puis en 2013, ils se sont dit non, fuck it, déjà on va couper la 3e partie, on va le faire en 2 parties. Et finalement, au bout d'un moment, ils se sont dit, bah vous savez quoi, on va vous faire un seul package, voilà, on va tout refaire en un seul mode. Et ça y est, donc là, ils viennent d'entrer en phase de bêta. Au moment où on enregistre, incessamment sous peu, ils ont prévu de rendre la bêta publique. Mais avant de faire ça, ils veulent faire un vrai bêta test en interne. Donc là, ils commencent à teaser, etc. Bon, bref. Un projet très intéressant en ce qui me concerne. Je pense que ça va être une bonne occasion pour se réinstaller New Vegas. Parce que ça a l'air super ambitieux et bravo à eux. En tout cas, si c'est aussi bon que les extraits que j'ai pu voir, ma foi, ça fait envie. Je précise, j'avais pas joué à la release initiale en 2013, donc ça sera l'occasion. Voilà.
Et surtout que là, on voit que c'est quasiment une qualité, on va dire, semi-professionnelle. Là, on voit vraiment qu'ils ont quand même poussé le délire assez loin en rajoutant un scénario qui se passe avant New Vegas, mettre des acteurs. Donc il y a vraiment quand même un travail derrière, et c'est pour ça que je parle de qualité semi-pro, quoi.
Ah oui, non, ça, on peut pas passer à côté de tout le travail qui a été fait. C'est plutôt très impressionnant. Tu dis semi-pro, mais même, franchement, si tu compares les jeux, je suis pas sûr que tu vois une grosse différence. C'est même quasi du travail de pro. Après, c'est des amateurs qui l'ont fait. Mais c'est quand même très impressionnant. Et puis, on comprend pourquoi il y a 9 ans de dev derrière aussi, hein. C'est...
Non, mais quand je parle de semi-pro, c'est juste par rapport,
oui,
sais, en termes de...
Oui, que c'est pas leur métier, etc., ouais.
Ouais, et puis même, légalement, si tu veux, ils sont pas dans le jeu.
Ouais, ils sont pas
dans
le milieu.
Ils ont pas une structure adaptée. Voilà, c'est ça.
Ouais. En termes de qualité, c'est du travail professionnel, ouais.
Mais il y a beaucoup de projets comme ça amateurs sur les productions Bethesda, moi, qui m'ont bluffé. Hein. Je pense notamment à Beyond Skyrim, qui permet de retourner dans la région dans laquelle vous aviez joué dans Oblivion. La qualité de doublage, franchement, elle est meilleure que sur Skyrim, je trouve. Et il y a plein de projets amateurs comme ça où tu dis, mais où ils ont trouvé leurs acteurs, où ils ont trouvé le temps d'enregistrer des dialogues de cette qualité-là. C'est pas les acteurs du dimanche, tu vois, qui font ça vite fait, mal fait. C'est vraiment de la qualité, quoi. Bravo. Vraiment, hâte de voir ça, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est des gens qui sont passionnés par Fallout. Donc du coup, ils s'investissent vraiment à fond dedans. Alors que c'est quelqu'un qui vient prendre juste son cash, mais qui n'a rien à foutre de faire une voix off, que ça soit du jeu vidéo ou bien pour une pub pour du liquide vaisselle. Bah, il est pas autant impliqué que eux, je pense. Parce que là, c'est vraiment des gens qui sont passionnés, il n'y a pas de rémunération derrière. Ils le font vraiment avec le cœur et ça se voit directement, quoi.
Bah, aussi, je pense que au-delà de la passion, si tu veux, il y a un problème en général dans les doublages dans le jeu vidéo. Enfin, on le sait, hein, c'est pas pour rien que les acteurs, ils sont fait grève, hein. C'est aussi parce que on leur dit rien sur les jeux. Enfin, ils sont pas dirigés, en fait.
Bien sûr.
Et là, il y a une vraie direction, pour le coup. Les mecs, ils ont envie que ça soit bien fait, quoi. Et ça se voit. Ça se voit vraiment. Par contre, juste un truc qui me fait peur, moi, c'est que de ce que j'ai compris, hein, ils reprennent la map de Fallout New Vegas, sauf que ils la reprennent avec beaucoup moins de PNJ, etc. Je sais pas comment ils vont faire pour remplir le vide, entre guillemets, quoi. Parce que la map de New Vegas, déjà, elle était assez grande, quand même. Donc, j'espère qu'ils vont faire ça de manière intelligente, quoi, on va dire. Bon, messieurs, je vous propose qu'on passe à la suite, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter.
Non, c'est bon.
On va parler en vitesse de la news opportuniste de la semaine. Voilà, je vais appeler ça comme ça. C'est Shenmue 1 et 2 qui arrivent sur PC, Xbox One, PS4. Étonnamment, pas la Switch. Je sais pas, pour moi, c'était la meilleure, enfin le meilleur choix, on va dire. Mais bon, mais ils y ont pas pensé, écoute. Donc, Sega ressort une version définitive, on va dire. Ça sera pas du 4 tiers, hein, rassurez-vous. Il y aura des options graphiques, etc. Bon, vous attendez pas non plus à des trucs de fou. En tout cas, ça devrait bien tourner. Moi, je sais pas pour vous, j'ai juste une chose à dire là-dessus. Sega, qui, vous savez, est très friand des compilations et des conneries dans le genre. J'ai toujours trouvé bizarre qu'ils fassent pas ça avec les jeux Dreamcast, en fait.
Ah, mais c'est vrai que c'est quelque chose que on aurait pu s'attendre, par exemple, à voir arriver sur la génération PS3 et Xbox 360.
Ouais.
Il y a eu certains jeux comme ça qui sont arrivés de Dreamcast, qui sont, par exemple, les Sonic Adventure 1 et 2. La Dreamcast, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a beaucoup de pépites dans son catalogue.
Ouais.
Mais comme c'est pas une console qui est ultra vendue, je pense que aujourd'hui ça aurait été quelque chose de bien de remettre ces jeux-là un peu sur le devant de la scène.
Et surtout, je sais pas où en est l'émulation Dreamcast aujourd'hui, mais je crois qu'elle est pas si avancée que ça en fait. Donc ça serait intéressant en plus de les avoir sur PC pour le coup, quoi.
Exactement. Enfin, la Dreamcast, je pense qu'elle s'en sort mieux que la Saturn en termes d'émulation déjà. C'est plutôt pas mal. Mais le problème, c'est vraiment tu peux pas faire tourner à chaque fois tous les jeux, on va dire, de manière optimale. Des fois, il arrive que les émulateurs crashent et tout ça, donc il y a des trucs qui sont quand même assez embêtants. Mais c'est vrai que moi, je suis content quand même de revoir un petit peu Shenmue 1 et 2, que ce soit sur PC, PS4 et Xbox One, parce que, en fait, pour les jouer aujourd'hui, même sur émulateur, ils ont pas mal vieilli en termes de maniabilité. Là, c'est quelque chose qui va être implémenté dans le portage. Ils vont faire un petit peu comme le remake de Resident Evil, où il y avait les configurations originales plus, on va dire, une maniabilité moderne. Et surtout, c'est quelque chose qui est très intéressant pour moi. Mais là, bon, je pense pas que ça va intéresser tout le monde, mais quand même, il y aura un doublage japonais qui sera en option.
Ah, ça c'est bien.
Ouais.
Des gens intelligents. C'est pas trop tôt. Ça devrait être de base, ça, sur tous les portages, putain. Ça devrait être de base, quoi. Merde. Bon, par contre, évidemment, après, tout est une question de prix, hein, comme d'habitude.
C'est ça.
Si le portage est de qualité, je veux bien mettre 20 balles dessus, tu vois. Parce que c'est quand même un jeu Dreamcast et que c'est pas forcément, évident, enfin pas forcément évident, c'est pas non plus la folie, tu vois, en termes de portage, mais disons que c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus difficile à porter qu'un jeu Mega Drive, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vise aucune compilation de Sega ou même des jeux sur le store de Nintendo, etc. Enfin bref, vous voyez ce dont je parle, n'est-ce pas?
Par contre, une problématique franco-française, est-ce que on aura le droit à une version française sous-titrée, quoi?
Attends, que je me souvienne, ils avaient traduit le 1, je crois, non?
Ah non, non, pas du tout. Ni le 1, ni le 2.
Je sais pas, dans mes souvenirs, ils avaient traduit le 1, mais pas le 2.
Enfin, non, tu confonds avec Yakuza.
Ah, peut-être, c'est possible.
Parce que Yakuza, premier du nom, je me rappelle, je l'avais fait à l'époque sur PS2, et je me rappelle qu'il était en français. Je prends le Yakuza 2. Enfin, Yakuza 2, je vois, version anglaise uniquement. Je parlais pas super bien anglais à l'époque, donc, tu vois, j'étais un petit peu dans le caca pour comprendre, mais au moins, ça m'a vraiment fait progresser, quoi, mais... Je trouve ça toujours quand même un petit peu dommage, quoi.
Bon, ATH.
Ouais.
Tu as un jeu qui t'avait bien plu à l'E3, n'est-ce pas? Que je pensais que t'allais tailler, mais en fait non, t'avais beaucoup aimé et je t'avais pas mal siconné là-dessus, ça je m'en souviens. Ce jeu, c'est Spider-Man. Et il se trouve qu'il y a pas mal d'infos qui viennent de chez Game Informer. Apparemment, ils ont sorti pas mal de trucs, donc je te laisse t'exprimer là-dessus, tu es l'expert sur le sujet, donc vas-y.
Déjà, on a eu la date de sortie du jeu qui sera le 7 septembre prochain sur PlayStation 4 uniquement parce que c'est une exclusivité. Il y a aussi le fait que le jeu donc tournera en 30 images par seconde, que ça soit sur PS4 classique ou PS4 Pro, donc ça c'est un petit peu dommage. À quoi sert la PS4 Pro, on se demande toujours, Sony, hein. Surtout que c'est une exclusivité, quoi.
Oui, en plus, c'est pas comme s'ils avaient l'excuse de dire « Ouais, mais c'est un truc multi-support, vous comprenez, ils sont pas fait chier, etc. » Non, 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 c'est une exclu, hein. Donc,
De plus, on apprend que Yuri Lowenthal, qui a été le doubleur de Prince of Persia, qui était sorti à l'époque en 2003 sur PS2, GameCube et Xbox, PC, sera le doubleur de Peter Parker en anglais. Donc ça, c'est quand même quelque chose de qualité.
Alors, je vous avoue que je me souviens pas du tout des doublages de Prince of Persia. Il était bon, l'acteur, ou... Là, je pose sérieusement la question, hein. J'en sais rien, en fait. Hein.
De ce que je me rappelle, le doublage du prince était plutôt correct.
D'accord.
Plutôt bon, même. Après, on a quelque chose qui m'intéresse particulièrement, moi, dans le jeu vidéo actuel. C'est-à-dire que le scénario s'étendra sur plusieurs semaines. Ça sera pas un one-shot d'une seule journée ou bien d'une seule nuit, un peu à l'instar d'un Batman Arkham. Parce que moi, je trouve toujours qu'il y a une dissonance un peu ludo-narrative dans ces jeux-là. C'est-à-dire que Batman, en une nuit, il affronte 50 ennemis, tu vois. Il arrête je sais pas combien de braquages, etc. Tu te dis, putain, mais le mec, il a réussi à faire tout ça. C'est un petit peu compliqué. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez cool. Peter Parker sera un personnage jouable, ainsi que Mary Jane sur des séquences dites d'infiltration. Bien sûr, Spider-Man sera toujours le centre d'attention. Spider-Man aura la capacité d'améliorer sa tenue, de crafter certains équipements, d'augmenter ses points de compétence dans certains domaines. On aura aussi la capacité de prendre des photos parce que Peter Parker, vous le savez, que c'est un photographe. Et là, ça sera apparemment implémenté de manière à ce que ça soit cohérent avec le récit du jeu. Plus aussi pour faire des trucs un petit peu cons. Par exemple, Spider-Man pourra se prendre en selfie avec les habitants, etc.
Par contre, juste les photos, les mecs qui ont un truc à exploiter, là. Genre, tu sais, avec l'appareil photo de Peter Parker, tu fais un mode photo pour prendre des screenshots, etc., que tu partages ensuite sur le PSN, voilà.
Le mode photo a été confirmé dans le jeu, hein. Donc ça, c'est... D'accord. Maintenant qu'on peut mettre des fonds d'écran personnalisés sur la PS4, il y a moyen de te faire un petit truc sympa, je pense, hein. Le jeu n'aura pas de micro-transactions dans le titre, j'ai envie de dire, heureusement encore, pour un jeu solo. On est parti tellement loin dans l'industrie du jeu vidéo que maintenant, ils se sentent obligés de le préciser, quoi, tu vois.
Bah, c'est devenu un argument marketing, c'est ça qui est triste.
C'est quand t'en fais pas aujourd'hui, c'est bien, mais non, c'est logique. Mais
voilà,
mais...
Alors, normalement,
ça devrait être normal, en fait.
C'est ça.
Côté personnage, on apprend aussi que aucun personnage qui n'est pas apparu dans le comics ne sera pas dans le jeu, c'est-à-dire il n'y aura pas de personnage original créé pour l'occasion de ce Spider-Man.
Disney is watching you.
Il y a aussi donc un système de season pass qui va arriver pour des DLC qui incluront notamment le personnage de Chat Noir. Mais celui-là sera quand même implémenté dans le jeu de base avec quelques quêtes qui seront dans le jeu. Voilà. Donc ça, c'est un peu les gros qui ont été sortis sur le magazine Game Informer, hein. C'est pas nous qui l'avons sorti, c'est pas Game Info, c'est pas les mêmes rédactions du tout.
Non, non, mais on est la branche française de Game Informer, tout le monde le sait. Bon, bah, TH, tu vas garder la parole. On va parler de deux recommandations cette semaine. Alors, pour commencer, ça va être une recommandation vidéo. Tu vas nous parler d'une chaîne et en particulier d'une vidéo sur la série Far Cry.
Donc, c'est la chaîne d'un youtubeur, je sais pas si c'est un youtubeur américain ou anglais, mais qui s'appelle Crobat, qui fait des vidéos, en fait, comparatives sur différents types de jeux vidéo. Il a fait des vidéos, notamment un comparatif à l'époque sur GTA 4 et Watch Dogs, pour montrer, en fait, la différence entre le moteur physique de chaque jeu. Une vidéo aussi également sur Dark Souls 2, où il montre la version qui avait été montrée à l'époque, plus la version qui était sortie, donc on voit vraiment qu'il y a beaucoup de différence entre ces deux jeux-là. Et là, il y a une vidéo qui est sortie récemment, donc ça fait une semaine. J'ai envie de vous en parler parce que c'est une vidéo comparative entre Far Cry 2 et Far Cry 5. Et ce que je vois, c'est que Far Cry 2, quand même, pour l'époque, c'était un jeu qui était ultra en avance par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Par exemple, la propagation des flammes est beaucoup plus poussée dans Far Cry 2.
C'est fou en termes de moteur physique, hein. C'est dingue.
Voilà. Et on se rend compte qu'à l'époque, quand même, Far Cry 2 était rempli de détails comme ça. Et nous, bah, on se dit Far Cry 3, c'est une suite du 2, donc tout ce qui avait été fait dans la série, bah, logiquement, ça devrait être conservé, donc ça devrait être des acquis, un petit peu comme les acquis sociaux,
surtout,
tu vois.
Surtout que c'est une habitude chez Ubisoft, en plus. Ils ne font que ça sur leur jeu, donc...
Ouais, mais le problème, c'est que Far Cry 2 est sorti, en fait, avant la mode de Far Cry 3. Far Cry 3, en fait, c'est celui qui a instauré les bases de la série actuelle. Far Cry 2 est sorti juste un petit peu avant, donc il avait un petit peu le cul entre les deux chaises, entre le premier et le 3. Mais par contre, c'est quand même assez fou de voir que Far Cry 2, à l'époque, proposait une météo dynamique. Chose que Far Cry 5 ne propose pas. On pouvait tirer à travers les murs pour tirer sur les ennemis. Far Cry 5 ne propose pas.
De la lumière dynamique aussi.
Lumière dynamique, exactement. La gestion des dégâts. Par exemple, quand tu tires dans les jambes d'un PNJ, il a vraiment mal à cet endroit-là et c'est pas, tu lui fais pas juste des dégâts. Alors que Far Cry 5, c'est juste une barre de vie qui diminue, mais il n'y a pas de localisation des dégâts. Et quand tu regardes tous ces détails mis bout à bout, eh ben, ça fait quand même pas mal de choses en la faveur de Far Cry 2, qui est un jeu qui date quand même de 2008. Mais là, on est 10 ans plus tard. Et quand tu vois que la série, en fait, finalement, n'a pas tant évolué, même plutôt stagne, C'est un petit peu dommage, quoi. Et c'est pour ça que je vous recommande ces vidéos-là. Après, vous pouvez checker sa chaîne. Il y a pas mal de tests qui sont faits sur différents moteurs physiques. Il a aussi fait des comparatifs entre Dead Rising 1 et Dead Rising 4. Et il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes. Mais en tout cas, tiens, on vous mettra le lien dans le podcast.
Après, je sais pas ce que t'en penses, toi, Ben. Bon, il y a des trucs, je me dis... ça peut se comprendre. Par exemple, le fait de tirer dans les pales du ventilateur et que les pales bougent, c'est pas forcément indispensable. Ça peut faire partie du package optimisation, quoi, on va dire. Ça peut se justifier comme ça. Par contre, il y a des trucs, c'est super dommage d'un point de vue gameplay, quoi. Le fait que tu puisses tirer à travers certaines matières, ce dont t'as parlé à TH avant, la gestion dynamique du feu, etc. Tu peux t'amuser avec ce genre de choses. Je trouve dommage, en fait, qu'ils aient jarté tous les trucs qui avaient un impact intéressant sur le gameplay. Parce que, à la limite, que la lumière elle soit plus dynamique, bon, c'est moins bien pour l'immersion, tu vois. Mais c'est pas non plus dramatique. Mais le gameplay, merde, quoi.
Non, mais c'est, j'allais dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, il y a une vraie rupture entre Far Cry 2 et 3. Et c'est à ce moment-là qu'ils auraient dû, entre guillemets, se mettre autour de la table et dire, bah, est-ce que ça vaut le coup de garder tel truc, tel truc, tel truc? Ça, non, ça vaut pas le coup. Et eux, ils ont dit non, on repart presque à zéro et tout ce qu'il y avait dans le 2, on oublie, on fait un nouveau jeu, quoi. C'est presque pas une suite, hein, entre le 2 et le 3. Donc,
Ça, par contre, on aurait dû checker, mais comme disait ATH hors podcast, je suis quasi persuadé que c'est pas la même équipe, qui est derrière.
Non, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est, on en parlait tout à l'heure, juste avant de commencer d'enregistrer le podcast, c'est le fait que tout ce qui est systémique, on parlait de comparaison un petit peu avec un Zelda Breath of the Wild, mais en beaucoup moins poussé, mais il y avait quand même des choses qui étaient intéressantes. C'est embêtant qu'ils ont renié ce genre de choses-là. Regardez juste la propagation du feu dans Far Cry 2 et Far Cry 5, c'est juste hallucinant. Dans Far Cry 2, elle est beaucoup plus poussée que dans Far Cry 5. Et donc ça, c'est quand même intéressant. Le fait que les collisions des personnages ne réagissent pas pareil quand ils sont au sol, etc. Même le ragdoll n'est pas du tout pareil. Et là, tu vois, dans Far Cry 2, par exemple, si tu tires dans la main du mec, bah, le mec, il est désarmé. Par exemple, il a un fusil à pompe dans les mains, bah, il va sortir son 9 mm juste après parce que son fusil à pompe est à ses pieds. Et même quand tu tues la personne, il y a sa grenade qui arrive à terre. Enfin, il y a plein de détails.
C'est tellement dommage.
C'est ça.
En fait, ça a l'air beaucoup plus varié dans Far Cry 2, justement parce qu'il y a un gameplay un peu émergent comme ça.
C'est ça.
Et ça, justement, dans un monde ouvert, c'est quand même pas mal. Plutôt que d'avoir des missions où tu vas suivre la flèche jusqu'à ce que t'arrives à la fin, quoi.
Mais c'est vrai que Far Cry 3 est sûrement beaucoup plus accessible que le 2 et c'est sûrement beaucoup mieux vendu. Et une fois de plus, c'est ça qui parle le plus au studio. C'est l'argent qui rentre et voilà. Donc,
ouais, bien
bon,
sûr.
Soit dit en passant, le jeu était pas parfait. Hein. Je me rappelle de plaintes à l'époque sur la malaria qui était générée n'importe comment. Enfin, Far Cry 2, il avait aussi un aspect jeu de survie avant l'heure qui collait pas du tout apparemment à l'expérience voulue, enfin qui était chiant, quoi. Voilà, parce que c'est le cas dans beaucoup de jeux de survie, hein, en vrai. Hein. Il y a beaucoup de jeux de survie qui gèrent très mal leur aspect survie parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à équilibrer, quoi, si tu veux. Comment ne pas rendre certains aspects de la survie rébarbatifs, entre guillemets. Et apparemment, ça, il y avait un gros souci là-dessus, quand même. Hein.
Bah après, c'est toujours la question entre le juste milieu entre un jeu vidéo et le réalisme, parce que dans Far Cry 2, tu pouvais mourir juste en tirant une roquette parce qu'elle t'explose à la gueule. C'est des choses qui arrivent dans la vraie vie. Hein. Pareil, le fait que t'es en plein gunfight, ton arme s'enraye, c'est des choses qui arrivent dans la vraie vie. Hein. Les armes s'enrayent. C'est quand même injuste de tirer une roquette et t'es obligé de recommencer un niveau tout entier parce que t'es mort, quoi. Alors que c'est le jeu qui a décidé que la roquette, à ce moment-là, allait te tuer, quoi.
Disons que ce qui est chiant, c'est le jet de dés. Alors que par contre, la mécanique d'enrayement, ça pourrait être intéressant, tu sais. Dans le sens
de l'arme,
En fait, il faut que tu gères bien ton arme, il faut que tu l'entretiennes, il faut pas que tu tires des rafales trop longues, etc. Donc que ça t'apprenne à jouer, en fait. Ça peut être intéressant. Par contre, la roquette où tu fais un GD, ah non, c'est dommage.
Voilà,
ah, t'es mort.
Oups, c'est ça. Mais bon, moi, je pense que Far Cry 2, quand même, à l'époque, ils étaient vraiment dans un délire de réalisme assez poussé. Et du coup, la réalité, c'est bien, mais dans un jeu vidéo, des fois, ça peut être chiant. Enfin, t'es en plein gunfight et là, au bout d'un moment, il y a ton personnage, il a la chiasse, quoi. T'es obligé de courir pour aller prendre des médicaments. Entre chaque zone, t'as des postes frontières qui font office de douane, par exemple. Le problème, c'est que, à chaque fois que tu élimines ce poste frontière, tu peux te dire, la prochaine fois que je vais passer, ça sera tranquille. Non, parce que les mecs, ils respawnent à chaque fois. Donc, du coup, soit t'as la chiasse, soit tu fais emmerder par des mecs, mais enfin, t'es obligé de faire beaucoup d'allers-retours, et c'est ça qui était très frustrant dans le jeu de base. Mais sinon, tout ce qui était à côté, en termes vraiment de mécanique pure, de gameplay, tout ça, c'est des choses qui auraient pu être conservées dans Far Cry 5, moi, je pense.
Bon, maintenant, je vais vous parler d'un article sur Kotaku qui a été écrit par Jason Schreier. On vous en a déjà parlé plein de fois, hein. C'est le monsieur qui à chaque fois fait des articles fleuves sur les coulisses du développement. Et comme à son habitude, ce monsieur, il a sorti un nouveau pavé que je vais vous mettre en lien et que vous allez aller lire, parce qu'il n'est pas question que je vous détaille tout ce qu'il y a dedans. C'est un article que, si je devais le réécrire en français, j'appellerais ça la stratégie de l'échec. Alors, ça s'attarde sur plusieurs aspects du développement de Mafia 3, et ça parle également du devenir du studio derrière. C'est-à-dire que Mafia 3, c'est un jeu qui est sorti, hein, on va pas vous refaire le test ici, ça ne sert à rien. Pixel et ATH s'étaient suffisamment exprimés sur le sujet. Encore une fois, je vous mettrai un lien vers l'émission où ils en parlent. On va dire que c'est un jeu qui devenait très rébarbatif dans le temps et qui avait des gros soucis de finition. Voilà. Et cet article explique tout ça, en fait. Il explique tout ça, et plus encore, il parle de l'avenir du studio qui est un peu trouble. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens, apparemment, qui sont barrés, etc. Et le studio, aujourd'hui, n'a pas grand-chose à voir avec le studio qu'il y avait à la fin du développement de Mafia 3. Ce qui est assez bizarre, d'ailleurs, parce que apparemment, bon, même si le jeu s'était un peu fait casser sur Metacritic, il s'était plutôt bien vendu. Bon. Là où ça devient intéressant, par contre, c'est sur l'aspect... comment dire ? Ah non, mais en fait, toutes les merdes que vous avez vues dans le jeu, on était au courant, hein, et on savait qu'on allait droit dans le mur. Après, il y a des trucs, c'est classique, hein, je veux dire, mauvais management, tout ça, je veux dire, ça, tu le revois à chaque fois dans le développement des jeux, hein, c'est pas nouveau. Là où ça commence à être nouveau, c'est que quand t'as une série, tu sais, qui a été développée en République tchèque, à la base, et que... Pour le troisième épisode, on a dit, bah écoute, vous avez un peu merdé sur les deux précédents, donc on va exporter ça aux US. On va demander à des employés tchèques d'aller aux US, parce que évidemment, on va réutiliser le même moteur, sauf que le moteur, évidemment, toute la doc, tous les commentaires qu'il peut y avoir dans le code, etc., ils sont en quelle langue ? Je vous donne dans le mille, en tchèque, donc il faut des techniciens tchèques pour s'occuper de ça. Le problème, c'est que les techniciens en question, ben, ils parlent pas anglais, pour la plupart d'entre eux. Donc, du coup, ça crée des problèmes de communication, etc. En plus, ça crée, entre guillemets, bon, pas vraiment des tensions, mais on va dire que tu te retrouves avec une équipe qui est pas hyper soudée, parce qu'il y a une partie des employés qui sont expats, et qui donc, comme tous les expats, je parle en connaissance de cause, se retrouvent entre eux et sont un peu à l'écart du reste du groupe. Il y a le fait que, bon, les designers, ils sont parfaitement conscients que il y a tous les soucis de progression dont on a parlé. Mais le problème, c'est que ils avaient fait un jeu qui était très ouvert à la base et qui se sont rendu compte dans les derniers mois de développement que c'était pas une bonne idée, que comme le jeu était très ouvert, ben les gens allaient essayer de tuer le chef de chaque zone. Sauf que c'était assez dur et que le mec qui arrivait à le faire du premier coup, ben il était fortiche, quoi.
Ça aurait été intéressant pour les speedruns, ça.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, ben le problème de ça, c'est que quand c'est mal équilibré, les gens, ils butent sur la difficulté du jeu et ils insistent jusqu'à ce qu'ils en aient marre et qu'ils lâchent le jeu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bah, ils ont fait ce à quoi ATH et Pixel ont joué, c'est-à-dire un jeu très compartimenté, très répétitif, où tu fais la même mission en boucle pour arriver au moment où tu peux enfin te débarrasser de ce connard. Voilà. Bref, je m'arrête là. Pas besoin de détailler plus. C'est un article qui est passionnant, qui parle de plein de choses. Je vous le recommande. Et je pense qu'ATH, quand tu le liras, il y aura plein de trucs. Tu vas dire, mais... Ah, d'accord. Ouais, je comprends mieux.
Bah en fait, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans ce genre d'article, c'est que là, on a vraiment, en fait, un post-mortem du jeu qui t'explique vraiment là où ça a merdé.
Et des post-mortem sans filtre. Tu sais, voilà. Avec des gens qui, comme ils sont anonymes, tu vois, ils ont pas peur d'être grillés dans l'industrie, ce genre de choses.
Non, mais et puis même, tu vois, enfin, en général, des fois, on apprend certaines choses sur certains jeux, 20 ans après, 10 ans après, et du coup, tu comprends pourquoi machin chouette, il a fait ça. Par exemple, un jeu comme Dekatana, tu vois. Dekatana, c'était un jeu, ouais, ça va être le meilleur jeu du monde, etc. Patati patata. À l'époque où il est sorti, bah la presse et tout l'a détruit. Et quand tu apprends en fait plus tard comment en interne ça s'est passé avec George Romero, bah tu vois pourquoi Dekatana est arrivé à cette catastrophe. Et c'est ça qui est très intéressant. Mais le problème, c'est que Dekatana, c'est arrivé 10 ans après, 15 ans après, je sais plus exactement, mais c'est arrivé bien plus tard. Là, tu vois, c'est quand même quelque chose d'assez récent, et c'est intéressant pour les gens qui veulent savoir pourquoi en fait un jeu vidéo peut chier à ce point-là, quoi. là, pour le coup, tu vois, c'est un vrai travail journalistique, en fait.
Bon, Ben, on va pas parler d'une très bonne nouvelle hein, cette semaine.
Non. Donc, on l'a évoqué déjà quelques fois ici, la grève à Gen System. Eh ben, la grève a pris fin, mais malheureusement pas avec un bon retour pour les salariés qui étaient en grève. C'est qu'ils ont décidé d'y mettre fin parce qu'il n'y avait aucune évolution et qu'ils se sont dit, ben là, ça peut plus durer, on n'a plus de revenus, rien ne change. Donc, ben, ils se sont décidés à reprendre le travail malgré tout. Il y avait quasiment la moitié du studio qui s'était mis en grève. Donc là, ben, ils vont devoir repartir au travail, mais j'imagine que l'ambiance après tout ça va pas être géniale non plus, quoi.
Bah écoute, moi j'ai une seule chose à dire, j'espère qu'ils partiront de cette boîte et qu'ils iront au prud'homme, quoi. Ils ont eu le courage jusqu'ici de faire grève, ce qui est à mon sens plus courageux, tu sais, que de faire comme pas mal de gens, c'est-à-dire faire un accord à l'amiable ou te barrer, aller au prud'homme et attendre de toucher tes sous. Parce que là, très clairement, vu ce qu'a fait la boîte, c'est sûr que s'ils prennent, s'ils vont voir un syndicat ou un truc, il y a moyen de palper quelque chose, hein, moi je vous le dis, hein. J'espère qu'ils vont leur faire cracher, en tout cas. Voilà. Et moi, Gen System, je retiens. Et j'espère aussi que les salariés du secteur retiendront. C'est-à-dire que si vous voulez bosser dans ce secteur-là, Gen System, c'est peut-être pas la meilleure boîte où aller. Hein. Sauf si, évidemment, vous avez pas peur que vous ayez un salaire d'ingénieur et que du jour au lendemain, on vous dise « Bah non, finalement, tu vas avoir un salaire de technicien, c'est pas grave. T'es gâté. » Révoltant. Et c'est tout ce que j'ai à dire, tu vois. Enfin, là, le problème, c'est que qu'est-ce que tu veux rajouter de plus ? Rien, quoi. Enfin,
tu te retrouves
face à des patrons qui veulent pas écouter, qui en ont rien à foutre de leurs employés, qui en plus influencent des députés pour qu'ils crachent à la gueule du syndicat, etc. Non, mais c'est magnifique. Hein. Moi, en tout cas, j'ai un système, je retiens, hein, pas dans le bon sens, mais je retiens. Bravo.
Le problème, en fait, dans ce genre de choses-là, on assiste vraiment à un vrai siège. Parce que les employés, au fur et à mesure, bah, ils touchent pas de salaire, donc au bout d'un moment, tu peux plus tenir.
Bah, c'est ça le problème. Ouais. Ils ont déjà fait. Enfin, ça, elle a duré un moment. Hein. 7 semaines de grève, c'est quand même assez énorme. Sans salaire, sans rien, c'est énorme.
J'ai envie de dire, c'est pas pour rien que la plupart des gens préfèrent se barrer d'une boîte plutôt que faire grève. Hein.
Bah oui, c'est difficilement tenable. Ouais.
Ça représente quand même 2 mois de salaire.
Exactement. Bon, ouais.
2 mois de salaire quand vous avez un loyer à payer. Vous avez une famille à nourrir, tu peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche, comme on le dit, quoi. Je te parle même pas de vivre confortablement ou quoi.
Juste vivre.
C'est ça. Et donc, du coup, ils ont quand même tenu pas mal de temps. Malheureusement, le fait qu'ils arrêtent la grève, moi, je les comprends tout à fait, parce qu'au bout d'un moment, bah, t'as des bouches à nourrir, tu es obligé de travailler, t'es obligé d'avoir une nomination, donc je les comprends et ils ont tout mon soutien, en tout cas.
Ouais, mais au bout d'un moment, tu dis fuck it, je me casse et puis voilà.
Bah, ça va sûrement, là, ils vont reprendre le travail et je pense qu'il y en a pas mal qui vont finir comme ça.
Bah, de toute façon, vu l'attitude de la direction qui avait dit à un moment donné que tous les salariés qui faisaient grève étaient des ennemis de la direction, bon.
Oui, non, mais de toute façon.
Je pense que ça va se payer à un moment ou à un autre, tu vois.
Voilà, c'est quand même assez difficile après avoir fait 7 semaines de grève de réintégrer une boîte et de retourner au travail normalement, quoi qu'il arrive, donc.
Ouais, mais la France n'est pas les États-Unis, donc pour trouver un poste dans le jeu vidéo, c'est quand même.
Ah, ça, c'est pas facile non plus, ouais.
Ouais, mais si tu veux, à un moment donné, bon, je veux bien qu'on me dise que le jeu vidéo, c'est le travail passion, etc. Mais tu vois, quand la passion te fait bosser dans un boulot où on te traite comme de la merde et on te sous-paye, à un moment donné, va peut-être falloir songer à laisser tomber le jeu vidéo, quoi, parce que, je veux dire, par contre, ils sont peut-être pas tous développeurs, c'est vrai, ça c'est le souci. Et je sais que, par exemple, pour les développeurs qui sont dans le lot, il y a du taf, hein, pas dans le jeu vidéo, mais il y a du taf. Ils seront mieux payés, en plus. Parce que le jeu vidéo, c'est connu pour être mal payé. Hein. Les programmeurs, s'ils veulent faire de l'argent, ils vont pas dans le jeu vidéo, hein. Ça paye pas bien. Hein. C'est pas rentable du tout. Hein.
Après, c'est quand même... Voilà, quand t'as une passion, que tu veux vraiment travailler dans un domaine, c'est un petit peu dommage. Moi, je pense que si les mecs, ils auraient été aux États-Unis, tout ça, il y en aurait beaucoup qui auraient cherché du travail ailleurs. Il y a que 5000 postes jeux vidéo en France actuellement. Soit ils essaient de faire leur propre structure, tu vois, comme ils avaient fait un peu, tu vois, les mecs de Dontnod. Ils ont quand même réussi à travailler pour Capcom et tout ça, alors qu'ils étaient indépendants et tout. Donc c'est quand même assez cool, tu vois. Il y a quand même des mecs qui arrivent à s'en sortir. Mais en tant que développeur, si tu veux travailler dans une autre branche jeux vidéo en France, t'as pas des postes illimités, quoi. Donc, c'est pour ça que je comprends pourquoi les mecs,
ils ont essayé de te lancer en indépendant, mais maintenant, c'est tellement bouché comme marché que... À moins que tu sais que t'es le projet d'une vie que tu veuilles absolument réaliser et que c'est un projet qui peut se réaliser avec peu de moyens, quoi, entre guillemets. Quoique, encore une fois, en attaquant Prud'homme, tu sais, il y a moyen, hein, il y a moyen d'avoir quelque chose. Enfin bref, triste nouvelle en tout cas.
Bah force à eux, hein.
Bon, on va terminer avec une autre mauvaise nouvelle. Il se trouve qu'il y a un site que moi j'aime beaucoup, en tout cas, je sais pas pour vous, c'est un site que je consulte régulièrement, ce site c'est SteamSpy. SteamSpy, je le rappelle, c'est quoi le principe? C'est un site qui va fouiller les fiches sur Steam, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un crawler hein, dans le milieu informatique, c'est-à-dire que tu balances un machin qui va aller sur les sites, qui va checker chaque page, etc., et qui va en particulier vérifier les profils des utilisateurs. Les profils des utilisateurs regroupant de manière publique les données des utilisateurs en question et notamment les jeux auxquels ils ont joué, tu peux estimer les ventes d'un jeu si t'as un échantillon suffisamment large, qu'on va dire. Plus il y a de ventes, si tu veux, plus les chiffres sont précis, en fait. Voilà.
Il faut préciser que l'algorithme était plutôt fiable parce que beaucoup de développeurs et tout ça, quand on leur demandait les chiffres, si les chiffres de SteamPay étaient réels ou pas, ils disaient qu'ils étaient dans la bonne fourchette.
Et donc, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que Valve a décidé de changer sa politique de confidentialité. Alors, contrairement à ce que j'ai pu lire ici et là, non, Valve n'a pas passé en privé par défaut les profils de Steam. Il les a rendus accessibles uniquement aux amis. C'est pas pareil, parce que tu peux cacher tes infos à tes potes aussi. Et surtout, c'est pas tout le profil qu'ils cachent. C'est en particulier les données sur les jeux qui sont joués, qui sont cachés. Donc c'est vraiment un point très précis des profils qui sont planqués. Du coup, SteamSpy peut plus marcher. Bah oui, parce que jusque-là, ils se basaient sur les données des jeux joués qui étaient disponibles en public pour faire ces statistiques. Donc s'il n'y a plus ces données-là, ben, a plus statistiques, tout simplement. Ce qui est assez embêtant, du coup, pour nous autres commentateurs et surtout pour les développeurs indés. Pour nous autres commentateurs, pourquoi? Parce que dès que tu commences à donner des chiffres, ça a beaucoup plus d'impact dans ton propos. T'as un jeu, il a fait une super campagne de com, etc. Le jeu super prometteur, il fait des ventes de merde et t'as les chiffres. Tu peux discuter là-dessus. C'est intéressant. Donc voilà, déjà, de notre point de vue, c'est chiant. En tout cas, du mien, ça allait beaucoup, parce que SteamSpy, Dieu sait que je le consultais énormément. Et surtout, ça allait pour les développeurs indépendants. Quand t'es dans un business et que t'as un outil comme ça qui te permet d'avoir une idée générale de où en est le marché, sur certains segments de jeux, etc. Regardons un peu les gros Metroidvania, c'est quoi les Metroidvania qui ont marché, ce qu'ils ont fait en termes de com, etc. Enfin, c'est un outil précieux et un outil qui coûterait très cher si tu devais payer pour avoir le même résultat. Je vous mettrai un lien vers un article de chez PC Games N où il y a des réactions de plusieurs développeurs indés. Ça parle de $50,000 hein, pour avoir des statistiques du niveau d'un SteamSpy. Donc 50,000 balles quand t'es un studio indé avec pas beaucoup de moyens, pour peu que tu sois fait Kickstarter en plus, alors là, le laisse tomber quoi. Bon, vous l'aurez compris, la perte de ces infos est assez dommageable. Maintenant, en fait, je suis assez partagé sur le sujet, c'est-à-dire que je trouve toujours ça bien quand une boîte cache les informations de ses utilisateurs par défaut. Maintenant, je suis pas fan de la comparaison que certains font avec Facebook, parce qu'il y a quand même une différence majeure avec Facebook, c'est que sur Facebook, il y a ton nom et ton prénom, et sur Steam, il y a ton pseudo. À moins que tu te sois amusé à mettre ton nom et ton prénom en pseudo, mais bon, voilà quoi.
Ça serait un petit peu bête, quoi.
Voilà, ça serait un petit peu couillon. Alors après, c'est vrai que si sur ton profil Facebook, tu mets un lien vers ton profil Steam, c'est facile de regrouper les infos. Mais à un moment donné, si t'es con, je veux dire, voilà quoi. Je suis pas fan non plus des réactions en mode Steam bande enculée, voilà. Pour une fois qu'il y a une boîte qui cache les données de ses utilisateurs, même si je suis bonheur quand même qu'ils l'ont pas fait pour nos beaux yeux, ou parce que les gens leur ont demandé, mais parce que ils veulent tuer SteamSpy, tout simplement. Moi, je pense que c'est le cas. Hein. Même si l'intention derrière est pas noble, on va dire, je trouve pas ça mal, entre guillemets, qu'il y ait plus de vie privée sur des plateformes comme ça.
Alors, moi, j'ai trouvé très intéressante, en fait, l'interview du créateur de SteamSpy, qui travaille chez Epic Games, donc c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît un petit peu dans le domaine du jeu vidéo.
Ouais, il est responsable d'un petit jeu qui s'appelle Fortnite.
Exactement. Il dit clairement qu'il a essayé de contacter Valve pour pouvoir échanger avec eux, mais que Valve, en fait, ne répond à aucun mail.
Bah, le truc, c'est que, je précise une chose, hein. Chez Valve, ils ont pas de support technique. Donc, comme ils ont pas de support technique et qu'ils sont pas si nombreux que ça, ils te répondent quand ils veulent, quoi.
Voilà. Ou bien ils te répondent pas, quoi. Tout clairement.
Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Non, mais pour que les gens voient bien l'organigramme chez Valve, en fait. C'est...
c'est ça. Mais si c'était quelque chose qui, je pense, qui toucherait à l'économie de leur plateforme ou quelque chose comme ça, t'inquiète pas que la Valve, ils vont te répondre.
Bah, Valve, de toute façon, ils réagissent que quand il y a un gros backlash derrière.
Oui.
Les seuls moments où on les a vus réagir, c'est par exemple quand il y avait eu la polémique sur les modes payants, où là, ils se sont fait harceler par une horde de joueurs qui voulaient les bouffer, quoi. Là, ils ont rétro-pédalé tout de suite, quoi. C'est, ils ont fait un communiqué et tout, alors que jamais ils font de communiqué, etc. Enfin, bref.
C'est ça. Valve, c'est un petit peu des mecs qui sont dans leur bunker. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Et puis, bah, si vous n'êtes pas content, de toute façon, c'est pareil.
Bon, après, qu'ils aient pas répondu à l'auteur de SimSpy dans l'absolu, ça me choque pas, tu vois, parce que fondamentalement, c'est un mec qui exploite les données qui est sur leur site.
Ouais,
ils ont déjà été sympas, si tu veux, de pas faire en
oui,
sorte
ils auraient pu le bloquer truc, hein, beaucoup plus rapidement aussi.
Après, par contre, je pense que il devrait y avoir une réflexion chez Valve. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec pas mal de personnes qui disent qu'en fait, le problème, c'est pas que Valve ait décidé d'anonymiser, entre guillemets, ce à quoi on joue. C'est le fait qu'ils mettent pas en public des données anonymisées des ventes des jeux, en fait. Parce que ça, mine de rien, c'est un outil très précieux pour les développeurs qui sortent des jeux sur leur plateforme. Et ça pourrait justifier le fait que les développeurs payent un certain montant à Valve sur leur jeu pour avoir, entre autres, ces statistiques-là. Alors, je dis pas que ces statistiques devraient être rendues publiques aux yeux des joueurs, même si je pense que ça serait bien, parce que c'est toujours bien que t'aies des données claires pour que les gens aient conscience des choses, en fait, tu vois.
Mais au moins, sur console, t'as les versions physiques qui permettent de dire si quel jeu fonctionne ce mois-ci, etc. Et ça te permet de savoir exactement qui dit n'importe quoi et qui dit la vérité des fois. On va prendre un exemple tout simple. À l'époque où Tomb Raider était sorti, le reboot, il y avait une polémique avec Square Enix parce que le jeu n'était pas assez vendu. Même pas un an après, le jeu était vendu quand même à plus de 6 millions d'exemplaires. Ce qui était quand même pas mal. Et Square Enix te dit, ouais, mais le jeu c'est pas assez vendu. Bah attendez, 6 millions d'exemplaires c'est quand même pas mal. Vous voulez combien? Vous voulez que le jeu se vende à 50 millions d'exemplaires ou quoi? Avec la ressortie sur PS4 et Xbox One en version définitive avec tous les DLC, je crois qu'il est à plus de 10 millions d'exemplaires. 10 millions d'exemplaires pour un jeu Tomb Raider comme ça, c'est quand même un chiffre qui est pas négligeable. Par contre, on a toujours pas les ventes dématérialisées parce que Sony ne communique pas ces chiffres-là, Nintendo non plus, Microsoft non plus. Donc ça, si tu veux, par rapport à ça, ils sont dans la même politique que Valve, c'est-à-dire que bah, le dématérialisé, ça empêche ça, en tout cas sur les plateformes de jeux vidéo, quoi.
Oui, et au-delà des joueurs, c'est important pour les développeurs aussi, ce genre d'infos. Un développeur qui a un contrat avec un éditeur, l'éditeur lui communique des chiffres bidons, il va voir SimSpy, il fait « Attends, tu te fous de ma gueule, là ?» Pourquoi j'en parle? Parce que c'est arrivé. Hein. Donc, d'ailleurs, certains éditeurs n'étaient pas très contents hein, que les gens utilisent SimSpy pour régler leur compte avec eux, quoi.
Non, mais ça, c'est intéressant parce que... Et on sait très bien comment fonctionnent les développeurs, hein, même que ce soit des indépendants et tout ça. En général, ils aiment pas trop parler de chiffres.
Bah, disons qu'ils aiment bien avoir ceux des autres, mais pas que les leurs soient diffusés, quoi. Donc,
C'est ça. Il peut y avoir aussi une certaine forme de pudeur là-dedans, parce que les chiffres ont été tellement mauvais qu'on n'a pas envie de s'afficher. Et même un développeur, il peut très bien te mentir, tu vois. Il peut très bien te dire, ouais, mon jeu, ils ont vendu à 2 millions, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Alors que quand t'avais SteamSpy, ça te permettait de faire des analyses,
d'avoir un acteur indépendant qui te
c'est surtout ça, c'est le fait qu'il soit indépendant, voilà. Parce que Steam aujourd'hui pourrait faire un équivalent de SteamSpy, mais voilà, qui va te dire que les chiffres sont réels, etc. Là, c'était, il y avait aucun intérêt a priori, en tout cas pour SteamSpy, de mentir sur les chiffres.
Bah surtout que c'était des estimations, comme on l'a dit au départ, quoi.
Oui.
Bon, allez, on va s'arrêter là pour cette semaine. Hein. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut.